C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour.
Bonjour à tous.
Fanny Ruet, bonjour Fanny, bonjour. Bienvenue. Daniel Morin.
Oh, bonjour Fanny.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Passureau sera là tout à l'heure. Et notre invité monsieur Cyril Lignac.
Quel accueil.
Bonjour Cyril, ouais, la foule en délire. C'est Bercy au grand complet. Bienvenue en tout cas. Ravi, comment allez-vous?
Ça va super.
Bon, une actualité chargée. Hein. D'abord un nouveau livre qui s'appelle Saison, le bien nommé. Un bel ouvrage, comme on dit. Hein. Ne serait-ce que la texture, la couverture est bien, comment dirais-je, bien travaillée. D'ailleurs, à quel point vous vous mêlez du livre dans
l'objet,
son esthétique, ouais, l'objet en lui-même. À quel point vous dites oui, je voudrais qu'il soit de cette couleur-là, de ce grammage, de ce papier glacé. Comment ça se passe?
Ben, du coup. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entreprend,
ouais.
Le livre, c'est un projet commun. C'est-à-dire que de la cuisine jusqu'au bureau, en passant par Vanessa qui est à la presse ou Laurence qui est l'ADG du groupe, chacune met son grain de sel pour que justement ce livre soit un projet commun et que tout le monde soit intégré.
Et j'imagine qu'aux éditions de la Martinière aussi, ils vous disent il faut se distinguer des autres livres de cuisine. Ils ont même pas le droit de faire du bas de gamme tellement ils ont cette réputation. Alors c'est 80 saisons, du moins ça s'appelle Saison et il y a pas
80 saisons.
80 saisons, c'est pas aujourd'hui.
Et si, bah figure-toi que c'est bah ouais, t'aurais dû faire attention. Bah si, vous avez vécu 80 saisons à Paris. Non, ça fait pas 20 ans que vous êtes par Rigaud?
Ah si, ça fait 20 ans.
Et ben donc 80 saisons.
Oulala.
L'ouverture du livre dit qu'il y a eu 80 saisons à Paris et que donc l'idée est d'enchaîner sur 80 recettes. Le temps de donner à Cyril Lignac son livre pour qu'il le lise. On va vous poser des questions.
J'ai l'impression qu'on soit Jack Lang. Hein.
Le principe, Fanny, je t'explique. On pose des questions et il faut que toute la bande réponde, sauf Cyril Lignac, qui sont des questions sur Cyril Lignac. D'accord ? Ouais. Il y a des points qui sont donnés. Donc, Fanny est un tout petit peu en retard, parce qu'elle elle arrive dans la bande originale après quelques semaines quand même d'antenne. Mais il y aura après, il y a un score à la fin de la saison pour dire qui a eu le meilleur score. Et je dois dire que l'année dernière.
Et à la fin, c'est moi qui gagne.
C'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais.
Bah, en même temps, elle a tous les jours, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quoi.
Donc, non, mais c'est pro-rata, ouais.
Pro-rata, on t'expliquera ce que ça veut dire tout à l'heure.
Si c'est du latin, je peux comprendre. Un truc que Cyril. Un truc de Cyril Lignac, pardon, avant de déguster ses gâteaux pour ne pas grossir.
Mais il appelle Vanessa pour avoir la recette?
Non.
Non, c'est un bon régime avant?
Non.
Ah, avant?
Il recrache.
Il boit quelque chose?
Non, il mange quelque chose.
Ah, il mange quelque chose.
Ouais.
Du pain?
De l'acide?
Non.
Des agrumes, quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait manger pour éviter?
Du vinaigre.
Je ne savais pas que c'était un coupe-faim, en tout cas, apparemment.
La pomme?
De l'eau chaude?
Oh, la cocaïne?
Non.
Non.
Ah ouais, ça m'intéresse.
Un truc illégal.
Genre pour pas finir le gâteau en entier.
Un truc illégal.
Ah.
Qu'est-ce qu'on peut
un truc coupe fin. Ah, de l'eau pétillante.
Il fait. Non. Il mange quelque chose avant.
Oh, du riz.
Un légume. Légume.
Légume.
Une banane.
Non. Wow. Non.
Légume.
Légume.
Ouais, mais ça dépend selon les régions. La banane.
La banane. Le plantain alors est un légume.
Oui.
Un truc qu'on peut trouver en toute
la
saison.
La carotte.
Qu'est-ce oui. Ah, pardon. Absolument. Bien vu. Vous mangez des carottes pour ne pas... Enfin, la légende dit que vous mangez des carottes...
C'est marrant que vous ayez dit ça, en fait, des carottes, parce que c'est vrai qu'il y a plein de légumes, c'est difficile la question quand même.
Bon, non, on a fait 54, dur. Donc on a...
Ouais, non, mais il y a un petit côté...
Oui, en fait, comme on mange des gâteaux toute la journée, à le moment de la dégustation, j'essaie de manger avant, style des carottes, et j'aime bien ça d'ailleurs, une salade de carottes bien assaisonnée. Comme ça, ça te coupe un peu l'appétit, et t'évites de te baffrer de gâteaux en fait.
Oui.
Parce que comme c'est bon, moi je peux pas m'arrêter.
Enfin, physiquement, vous êtes de tous les chefs que l'on a reçus le plus svelte de tous. Vous avez un truc, vous faites du sport, vous faites gaffe.
Oui.
Vous mangez pas trop sucré parce qu'on sait que le sucre, c'est
terrible.
La balle. Ah bon, c'est terrible.
Non mais c'est terrible. J'aime ça. Donc et puis là encore,
c'est une drogue le sucre.
Non mais c'est réconfortant.
Oui, on en a envie d'autres.
Et t'en as envie. Et quand c'est bon, t'es là, ça sent la pâtisserie sous la tente. Juste envie de manger des gâteaux, quoi.
Puis ça envoie un réflexe, oui, ça envoie un message de bien-être tout d'un coup.
Question suivante sur Cyril Lignac. Quel sport pratique-t-il pour se détendre?
Le karaté?
Non.
La course?
Non.
La boxe?
Pied?
Non.
Le vélo?
Non.
La planche à voile.
Fanny, yoga, la planche à voile. Très pratique à Paris, la planche à voile.
Il fait du yoga.
Il
fait de la boxe du Sud. Boxe, yoga.
Non.
Jokari?
Non.
Foot?
C'est un sport qu'on ne peut pas faire seul.
La squash?
Squash?
Non.
allez.
Pour se détendre, c'est pas non plus. Enfin, c'est physique, hein, mais c'est pas non plus.
Bill Bokeh.
Du rock'n'roll.
Bill Bokeh. Oui.
Non. On peut pas faire tout seul.
Sport,
pétanque.
On peut pas faire tout seul. Non. C'est vrai que la pétanque seule, c'est un grand moment de solitude. J'y avais jamais pensé. Bah, autant à tennis, tu peux faire un mur, autant la pétanque, c'est quand même t'es très 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 ennuyé.
C'est un truc pour se détendre.
Ouais,
c'est connu ton sport.
C'est connu, ça peut même la France est globalement bien classée aux Jeux Olympiques dans ce sport.
Handball.
Et on peut le faire dans un esprit de compétition ou de promenade.
Cheval.
Exactement. Putain, en forme, Morin.
Bah c'est mardi.
L'équitation, oui. Alors l'équitation, c'est promenade en forêt ou vous sautez des obstacles?
Les deux, mon général. Mais en fait, je joue au polo.
Et ah oui, ça donc, déstresse.
Donc, balade en forêt
ou polo.
Alors là, avec polo, des copains,
polo, c'est costaud.
C'est dur.
C'est les Argentins qui sont très bons
c'est
en polo.
C'est les Argentins.
Hein.
C'est un sport qui vient d'Argentine. En fait, l'équitation, c'est du bien-être parce que quand tu pars en forêt avec un cheval, j'ai démarré l'équitation parce que la première fois où je suis remonté à cheval depuis quand j'étais gamin, je faisais un petit peu d'équitation. T'as cette sensation que le cheval absorbe ton stress et surtout le sentiment que quand t'es à cheval, tu penses à rien d'autre.
Alors que normalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire un cavalier stressé peut
stresser le cheval.
Exactement.
Ouais. Mais c'est surtout ce sentiment de tout oublier. Tu vois, de partir en forêt, de balader, de
ça, je suis d'accord,
respirer.
Mais alors, le polo, ça remet un stress parce qu'il y a de la compétition, il faut marquer, il faut...
C'est pas le même stress, c'est plutôt de l'adrénaline.
D'accord, ouais.
Et à la fois, quand on joue, tu penses absolument à rien. On a des métiers, enfin, en tout cas, moi, je pense sans cesse au travail, à ce que tout se passe bien dans les cuisines, à ce qu'on délivre les bons gâteaux, à ce que le client soit content. Et du coup, c'est toute la journée. Là, au moment où on est en train de parler, je me dis, est-ce que on va bien vendre le gâteau? Est-ce que le poisson est bien arrivé? Est-ce que la viande est bien? Est-ce que les cuisiniers sont tous au complet? Est-ce que c'est sans cesse des questionnements permanents? Et donc, du coup, quand tu es à cheval, t'as pas le choix.
À quel rythme vous jouez vos polos? C'est genre forcément une fois par semaine?
Oui,
ou
minimum,
c'est...
Ouais. Ah oui, minimum.
Ah oui, c'est sérieux. Mais vous êtes dans un club?
Oui, je suis dans un club, on a une équipe. Oui, c'est minimum une fois par semaine.
Ok, et donc vous faites de la compète, il y a des classements, il y a un championnat?
Ah oui, on fait de la compète. Ça marche pas comme un championnat, c'est plutôt un tournoi.
D'accord.
Et donc, il faut essayer
c'est
de sortir.
5 contre 5, c'est...
4 contre 4.
4 contre 4, d'accord.
Voilà.
D'accord.
4 contre 4, 4 périodes.
Et c'est quand même dangereux. Un peu.
Oui, ça secoue un peu quand même.
Si, ouais, ça bouge. Ouais. Le fruit que Cyril Lignac aime par-dessus tout.
La carotte. Le fruit.
C'est pas un fruit, Cyril, sans donner le fruit, c'est pas un fruit qu'on retrouve dans beaucoup de gâteaux, dans
litchi,
beaucoup de pâtisseries.
Yuzu.
Kiwi.
Si, on en trouve.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, non. T'as dit quoi,
litchi, kiwi,
yuzu, non.
C'est un fruit européen.
Un fruit, oui, un fruit européen. Un fruit même du sud de la France.
L'orange.
Le kaki.
Non.
Le citron.
La figue.
Non.
Été.
Fanny.
La fraise.
Pas d'idée.
Mais...
Il n'y a pas un fruit que tu aimes.
Un melon.
Le coin.
Joli.
Ouais.
Allez.
Un point.
Non, mais ça sent le piston là. C'est... Non, tu l'as dit.
JB.
Non, mais
c'est parce qu'il a pitié.
Non.
C'est parce qu'il a pitié. Elle, elle débarque. Elle mérite un point comme ça pour la participation.
C'est le point de la pitié.
C'est pour la mettre en confiance. Moi, je comprends. Faut la mettre en confiance. Allez, c'est bon. Voilà, Fanny, welcome. Tout ça. Maintenant, c'est les règles.
Moi, je suis écœuré.
C'est ce qu'on me dit au casque. Non, on n'a pas triché. On l'a aidé. Je vois pas la nuance entre donner une bonne réponse à un jeu au casque à quelqu'un et.
Moi, on m'a triché. J'ai le permis de conduire à cause de ça parce qu'on m'avait aidé. Donc, du coup.
C'est une réponse de professionnel. Ouais,
parlons de ce melon de Cavaillon. Enfin, c'est le réflexe qu'on a, à moins qu'il y en ait d'autres ailleurs qui soient tout aussi bons.
C'est le sud de la France, il n'y a pas que Cavaillon. Mais ce que j'aime dans le melon, c'est déjà un fruit d'été. C'est gorgé d'eau et de sucre. On peut le manger en entrée, comme on peut le manger en dessert, comme on peut le manger petit. C'est un fruit qui m'accompagne tout au long de la journée. Donc j'aime bien le manger.
Pourquoi on le retrouve s'il est si bon, si sucré dans peu de pâtisseries?
Parce que c'est un fruit
ça cuit très mal.
Ouais. C'est un fruit qui rejette de l'eau. C'est un fruit qui, dès qu'il est en maturité, enfin, est un peu plus sucré.
La tomate rejette beaucoup d'eau aussi, et pourtant elle est faite à toutes les sauces.
Pas tellement dans les gâteaux non plus.
C'est clair.
Mais c'est un fruit qui, quand on le met à l'intérieur d'un gâteau, change de goût en fait. Dès qu'on le sucre, dès qu'on le met dans une mousse, je l'aime naturel pour ce qu'il est, en fait. J'ai pas besoin de le travailler ni de le mettre à l'intérieur de...
Alors, allons plus loin, la pastèque que les Anglais appellent watermelon, c'est-à-dire que c'est qu'il décline la famille du melon.
J'aime moins.
Ah, vous aimez moins.
Il y a des pépins dedans.
Fainéant.
Cyril, 10 ans.
Quel est son plat préféré? Alors là, ça va y aller.
Français?
Je vais vous dire, ah oui, oui.
De chez
français,
moi.
Puis alors le genre de truc que moi, je ne mange absolument pas.
Ah bah alors, du coup, du pot au feu.
Le casier de veau?
Non.
Du bœuf bourguignon? Ah non,
l'escalope de veau? Il y a
alors,
du veau?
Il y a du bœuf, mais il n'est pas bourguignon, c'est de sa région.
Oui, pardon, bah, du bœuf, je sais pas moi.
Ah, la Ligo?
Non. De la région, c'est quoi du bœuf?
Oui, un peu à peu près.
Non, mais de...
La région. Il y a du bœuf dedans.
Il y a du bœuf dedans, oui. Non, mais c'est même c'est que du bœuf, non?
Carpaccio?
C'est quoi votre plat préféré? C'est pas une côte de bœuf?
Un steak,
tout ça
steak.
Si,
côte de bœuf. Ah, bah voilà, ok. Bon, bah, c'est bon, on va pas en plus délirer.
Bah, c'est plutôt quelle caisse du.
En fait, comme il a dit à Ligo, mais c'est la côte de bœuf avec de la Ligo, en fait. Oui, voilà. C'est un produit de chez moi. Et surtout, la Ligo qui est une purée de pommes de terre.
On va donner le point à Tom, alors. On va donner le point à Tom Villa.
Demi.
Oui, on peut lui donner le point, hein.
Alors, c'est quoi? C'est Aubrac?
Aubrac? Il y a des belles bêtes. Et on a des belles côtes de bœuf, des beaux bœufs.
Le sourire du gars qui fait, il y a des belles bêtes.
Et ouais, mais parce que c'est, après, ouais, parce que ça me rappelle.
Je suis juste en train de les voir en train de se faire découper, mais.
Ah,
elle était belle. Ah, elle était belle.
Bah, c'est mieux que de la manger à même la bête.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est surtout, bien sûr, la côte de bœuf, mais c'est surtout la Ligo, cette purée de pommes de terre avec de la tome de l'Aubrac, et que l'on fait fondre à l'intérieur de la purée avec un peu de crème fraîche, qui file, en fait, qui est un produit de montagne. Et que l'on peut manger avec de la saucisse, hein, si on ne veut pas manger du bœuf, mais j'ai vraiment été élevé avec ça.
C'est une saucisse végétale, alors.
Oui, une saucisse de cochon.
Bah, un cochon, allez, on y va.
Une saucisse de pâquerette.
Quel est son gâteau préféré? Parce qu'il fait tous les gâteaux de la planète et ils sont très bons, les gâteaux de Cyril.
Millefeuille, Paris-Brest.
Non.
L'hamburger.
Baba au rhum.
Non, non, un truc.
Le flan.
Madeleine.
Un truc basique, un truc même que les.
Gâteau yaourt.
Je me demande si c'est pas le premier gâteau que les enfants.
Un gâteau yaourt.
Non.
Premier. De sablé.
Il y a une dame qui a donné la bonne réponse dans
le cookie. Eh ben, on donne le point.
Mais c'est quoi votre définition de gâteau? Parce qu'un cookie, c'est pas un gâteau. À moins qu'on ait encore un.
Non, c'est vrai, c'est pas un gâteau, un cookie.
C'est quoi? C'est plutôt une sorte de flan, un truc.
Non, c'est un gâteau avec une crème à l'intérieur.
Tropézienne?
Un fraisier?
Un chou?
Non.
Une crème à l'intérieur.
Alors, c'est de la pâte à choux.
Ah, l'éclair?
Oui, mais alors quoi?
Chocolat, café, vanille, pistache, andalou, je sais pas.
Moutarde, paprika, moutarde.
Passion, c'est quoi?
Citron?
Crocodile?
Non, mais regarde, t'as que la couleur de ton
sweat. Oui, bah, il est jaune, mais.
Non,
vanille, il est pas jaune.
Vanille, citron. Marron.
Il est pas jaune, hein, il est jaune-marron, donc.
Quelle couleur?
C'est quelque chose, ce truc là.
Non, mais dans un gâteau.
Non, ça c'est jaune.
Dans un gâteau.
Praline.
Mais non, mais
moka, non?
Mais non.
Café. Crème pâtissière.
Mais non.
Chocolat.
Alors là, c'est le
Madame,
truc
vous m'y mettez n'importe quoi derrière. Vous m'y mettez n'importe quoi.
Ça me rappelle un film que j'ai vu hier. Donc ça rien,
le truc que je préfère au monde.
L'amour.
Mais oui, mais c'est un éclair.
Un éclair à l'amour.
Vanille.
Mais non.
Bah, je sais pas.
Regarde la couleur.
Caramel.
Oui.
Ah,
mais on l'a dit caramel.
Mais non, vous l'avez pas dit. Jamais.
Mais alors ça, c'est pas caramel.
Non.
Si vous voyez des caramels comme ça,
je suis daltonien. Je suis daltonien.
C'est caramel beurre salé.
Ça rappelle le caramel quand même.
C'est vrai que c'est sa signature.
Ouais, ouais.
C'est
daltonien, mais.
Caramel beurre salé.
Comme le dit Leïla, c'est votre signature.
C'est de vos signatures en plus.
Oui.
Caramel beurre salé.
Disons que ce que j'aime dans le caramel beurre salé, c'est qu'il y a le passage entre la cuisine et la pâtisserie. Il y a ce petit goût de sel qui assaisonne l'éclair et qui donne ce côté un peu différent d'une pâtisserie traditionnelle juste sucrée.
Quelle est, enfin du moins c'est pas quelle est, non, quelle proposition de cinéma a-t-il refusé? On lui a proposé de jouer...
Un rôle de chef?
Un rôle...
Ratatouille.
Et il a refusé.
Ça j'ai fait.
Non, c'est un rôle de chef, oui. Mais rôle. Encore plus précis.
C'était dans le film avec Paul Bocuse.
Un biopic sur Jean-Pascal de la Starac.
Non.
Un film avec Jean Reno et Michael Youn, là où ils jouaient des chefs, non, c'est pas ça?
Bonne vanne, Fanny.
Merci de le reconnaître. Ouais, tu étais seul. Sur ce coup-là, tu étais seul.
Non, j'ai mis du temps à retrouver le visage du mec, mais d'un coup, ouais, je vois.
Génération.
Attends, un film qui a marché?
Un film américain.
Ah, il n'a pas marché.
Je ne sais pas quel est le film, il va nous le dire peut-être, mais en tout cas, le rôle, c'est un rôle d'un chef, oui, mais quel chef?
Ah, chef de l'Elysée?
C'est pas Bocuse.
Non.
Vivant ou mort?
Vivant.
Incarner un vrai chef?
Que vous connaissez?
Piège?
Non.
Passard, Ducasse, Bocuse, qu'est-ce qu'il y a comme chef?
Il a refusé Ducasse. Le rôle d'un chef, un chef que l'on reçoit.
Lui-même.
Exactement, Fanny.
C'est plus facile quand tu donnes la réponse. Hein.
Vote, pourquoi?
Qu'on reçoit.
Ben non, mais on peut. Ou, oui, ah pardon, il y avait un côté intemporel dans, que l'on reçoit.
J'ai tendance à faire les trucs de ben conjugaison. Ça, comme
c'est réussi, c'est réussi. Le présent, c'est le présent. Ouais, c'est vrai que l'on reçoit maintenant. J'aurais dû dire. En plus. Oui. On vous a demandé de jouer votre propre rôle et vous avez refusé.
Oui, parce que
vous le sentiez pas
trop ingrat.
Ouais. Non, mais c'est pas tellement le fait de jouer son propre rôle, c'est plutôt le fait de faire du cinéma.
Vous voulez pas jouer Salouk en fait.
Ou le trop gentil. C'est non, mais quand j'ai démarré, j'ai été donc chef cuisinier, puis après j'ai démarré la télé, ça a été vraiment difficile pour moi. De sortir de cette image de chef de télé pour être compris, assumé comme un vrai chef et accepté.
Par les autres, d'accord.
Donc quand maintenant, après autant d'années, je suis sorti de cette image, c'est pas pour m'y remettre à travers le cinéma, en fait.
Et on peut savoir le film ?
Ça n'a pas d'importance.
Je l'ai pas. Je le connais pas, celui-là. Tu l'as vu, toi, le sapin important?
Je sais pas s'il a marché, ça, un deuxième semaine, comme il a fait.
Il y a Christian Clavier dedans, ou
pas? Non, c'est une comédie?
Sur M6, il faisait beaucoup de films où il faisait jouer des animateurs. Absolument. Stéphane Plaza a joué, Valérie Damido a fait. Et donc, on m'avait proposé un film, de faire ce rôle-là, produit par Luc Besson. Et donc, du coup, c'était pas quelque chose que...
C'est chic quand même, enfin.
Oui, c'est très chic. Non, mais le sujet est pas là. C'est juste que c'est pas quelque chose.
C'est l'image.
C'est, voilà.
Et vous avez donc pas mal souffert du regard de vos pères ou des gens de ce métier, en tout cas, sur le chef de la télé. Est-il un vrai chef ou pas? C'est ça?
Mais le sujet, c'est que, quand en France, on essuie un peu les plâtres, et qu'on passe un peu le premier, forcément.
C'est vrai, en plus, ouais.
Ça fait un peu grincer des dents. Et si t'es à la télé, c'est que t'es quand même respecté dans ton métier, dans ce que tu fais, que tu racontes pas des conneries, quand même. Donc, au bout d'un moment, le sujet devrait même plus se poser. Aujourd'hui, enfin, on fait des émissions de cuisine
passer
à la télé.
Passer à la télé n'est pas non plus une garantie de qualité pour ceux qui y passent. Et on sait de quoi. Ouais. Et on est bien placé pour le dire. C'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est meilleur qu'un autre. C'est simplement.
Non, j'ai pas dit qu'on est meilleur qu'un autre, mais j'ose espérer que,
une chance.
Que tu sais de quoi tu parles.
Ouais.
Au moins, quand même.
Mais de toute façon, vous n'avez pas arrêté pour autant la télé.
Pas du tout.
Donc,
pas du tout.
Ouais. Il y a même des projets, d'ailleurs, avec Jean-François Piège.
Et puis, ça fait 15 ans, quand même. Donc,
c'est ça. Il y a des projets avec Piège ou pas? Ça,
oui.
C'est une vraie fausse rumeur ou...
Oui, non. Il y a un projet avec Jean-François. Un match de cuisine entre potes.
À cheval.
En Italie.
Saison, donc, c'est l'idée de suivre les saisons. Est-ce que ça, c'est parce que notre planète ne va pas bien et que justement, on se dit qu'il faut respecter les saisons et ne pas spécialement aller chercher des tomates qui viennent du bout du monde ou un ananas en plein mois de janvier ou une mangue?
Déjà, c'est pas un livre moralisateur parce que je l'ai écrit plutôt en essayant de simplifier la vie et en se disant voilà, je classe les recettes par saison parce que bien entendu qu'il faut acheter des produits de saison, bien entendu qu'il faut faire travailler l'agriculture française, bien entendu que c'est mon cheval de bataille, c'est le cas de le dire, parce qu'aujourd'hui, en effet, la planète va mal, en effet, on mange pas les produits à la bonne saison et qu'il faut manger, je le saurais que dire, français, d'agriculture locale, locavore, le plus proche de chez nous.
Le problème, c'est que notre palais a commencé à prendre l'habitude d'avoir, restons avec la tomate, de manger toute l'année des tomates.
Ouais. Il est jamais trop tard quand même.
C'est vrai.
Notre métier de cuisinier aujourd'hui, au-delà de faire bien et bon, ce qui est quand même la normalité, c'est aujourd'hui de protéger notre agriculture, de protéger notre santé, de manger...
Mais en quoi ça peut abîmer la santé de manger de la tomate toute l'année?
Comment elle est cultivée? À quelle échelle? D'où ça vient? Comment c'est fait?
Comment elle a mûri, surtout?
Elle a plus mûri
dans les cagettes qu'au soleil.
Forcément que ça, c'est déjà la première chose qui est très importante. C'est la pêche. La pêche locale, la pêche française, protéger aussi tout ce...
Enfin, en fait, quand je vous entends, le plus gros problème, c'est tout ce qui est industriel. Que ce soit la culture des fruits et légumes, ou que ce soit la pêche qui ravage les océans, c'est tout ce qui est industriel, pas ce qui est artisanal.
Oui, et c'est surtout que...
Et je pense que pour la viande, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que la viande élevée par un agriculteur qui a l'amour de ses bêtes n'a rien à voir au palais. Ouais. J'imagine qu'une viande dans un hangar élevée en...
Ça, c'est une des choses. Mais moi, je veux vraiment me battre pour qu'on préserve l'agriculture française. Elle est vraiment en danger aujourd'hui. Et avec l'ouverture des frontières, on achète des poireaux en Hollande, on achète des poireaux en Belgique, alors qu'à côté de Paris, il y a des champs entiers de poireaux.
Parlons des recettes. Est-ce qu'il y a des saisons où c'est plus dur de cuisiner parce qu'on trouve justement moins de produits?
Non,
est-ce
c'est
que,
pas
est-ce
plus
que hiver et automne, c'est plus délicat quand même que printemps et été?
Ouais, c'est un peu moins la fête en tout cas. Pardon, mais moi personnellement.
En ce moment, c'est l'endive.
Bah ouais, non, c'est
un
champignon.
C'est un peu moins la fête, mais ça dépend ce qu'on a envie de manger.
Les champignons, les potirons, enfin, il y a plein de choses.
Bien sûr, les soupes de potirons. Non, mais après, c'est assez paradoxal, mais moi, j'aime la cuisine d'hiver. Parce que c'est une cuisine qui est gourmande, rassurante, avec de la crème, avec des légumes, un effet comme ça, l'endive, le potiron, le potimarron. C'est la période où on peut y aller avec le beurre, la crème, les coquilles Saint-Jacques. Donc forcément, moi, c'est tout ce que j'aime.
Après, la cuisine d'été, c'est... Pour un mec du Sud, c'est surprenant des milliers, non?
Mais je suis un mec du Sud, mais je suis né dans l'Aveyron. C'est quand même une région.
Je suis un mec du Sud, mais je suis né dans l'Aveyron.
Non, mais...
C'est le Sud de l'Aveyron.
Ouais, c'est, en fait. C'est pas tellement le Sud de la France, quand même.
C'est le centre.
Oui. Donc du coup, on mettait beaucoup de crème et de beurre. Non mais j'ai pas été élevé à l'huile d'olive. Je suis pas né à Nice ou à Toulon. J'aurais adoré aussi, mais je suis quand même né dans une région agricole avec
gras,
des hivers rudes. On aime le grain, on fait les cochonailles. Oui. C'est quand même le vrai terroir, quoi. Donc j'ai vu plus ma mère cuisiner avec du beurre, de la crème, de la tomme, de l'aïeul, plutôt que de l'huile d'olive, quoi.
D'accord. Enfin, si
on faisait les graisses, on faisait les frites à la graisse de canard, quoi.
Ah oui. Frites graisse de canard.
Pardi.
Bah oui.
Et on tuait le cochon et on faisait les canards, on faisait le foie gras.
La Hélène Darroze, quoi.
Et ouais, pardi. Eh oui.
Pardi. Alors le.
Qui vient de faire une digestion.
Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses, quoi.
Vas-y, Daniel.
Nagui a beaucoup de mal. Là, il imaginait le cochon qui se faisait éventrer en face de lui.
Ah, ça a un bruitage.
Non, c'est avec Nagui, on se régale. Un peu de tofu, un peu de graines de quinoa, de l'eau tiède. Hop,
du
feu, c'est le réveillon, ça.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les saisons me plaisent. Et en effet, toutes les produits que l'on peut utiliser dans la cuisine sont intéressants tout au long de l'année. On est content aussi, c'est ce que je dis. On est content de retrouver les premières fraises fin avril. Si on en mange tout le temps, on a plus de plaisir.
Non mais moi, c'est une fête.
Les figues, les abricots.
Je pense que certaines générations se souviennent encore d'accompagner leur maman au marché pour voir si les fraises sont arrivées, les cerises sont arrivées.
Donc on est d'accord, la fête, c'est plutôt quand les fraises arrivent, quoi. Moi, je me dis pas quand le potimarron arrive. Enfin, tu vois, je me dis pas youpi. Pardon. L'aubergine, si.
L'aubergine, c'est la fête. Mais quand t'as par exemple.
Ah, ça me dégoûte ce qui se passe autour de cette table.
Quand t'as par exemple les marchands de marrons au coin des rues qui font. Ça, c'est quand même. Là, il y a un parfum d'hiver qui est agréable.
Ce qui me plaît dans l'écriture de ce livre.
Châtaigne.
Et de dire saison, c'est que. On aime, et en effet, je comprends quand vous dites, oui, c'est pas la fête quand on arrive au mois d'octobre, qu'il commence à faire froid, il pleut à Paris, c'est gris. C'est sûr qu'on préfère le mois d'avril quand il commence à faire beau. On fréquente les terrasses, il y a les premiers fruits qui sont là.
Non,
forcément,
on
a besoin de ça.
Je comprends ce que vous dites sur la nourriture où on peut se lâcher et à la limite, on veut bien prendre un peu de graisse, un peu de gras pour passer l'hiver sans avoir trop froid, quoi. Ouais, ça se voit moins et on met moins le maillot.
Que là, on parle. On parle
diététique. Ouais.
Mais si je fais une bonne soupe de potimarron, là, vous allez l'adorer. C'est sûr, avec de la châtaigne et une petite crème.
Non, mais je pense que sûr. Quoi que vous fassiez, elle va adorer de toute façon. Quoi que vous fassiez. Saison.
Moi, ouais,
c'est Cyril Lignac qui signe ce très bel ouvrage parce que c'est un beau livre en plus avec de sublimes photos, des explications qui sont toujours d'ailleurs des recettes où il y a minimum 4 à 6 personnes. On peut pas mettre 2.
Non mais que... Bon, on divise la recette, Nagui.
Non mais j'entends, parce que il faut toujours avoir du monde pour faire vos recettes.
C'est une tradition.
Quand on s'aventure et qu'on a envie de prendre un livre de cuisine, de s'asseoir, d'aller faire le marché, de cuisiner, ça prend du temps, c'est fait pour faire plaisir.
Non mais c'est facile pour vous avez des amis, mais pour les gens qui, comme nous, n'avons aucun ami, on aimerait avoir des recettes individuelles ou à deux maximum.
On divise.
On divise, aussi simple que ça.
Bah, c'est
mathématique.
Okay. D'accord.
Saison, Cyril Lignac, c'est aux éditions de La Martinière. Tom Villa va vous poser des questions, mais en plus, il va vous donner les réponses, donc vous n'avez rien à faire. Laissez faire, Tom Villa.
Thierry Lignac, bonjour. Et ce matin, c'est votre grande première dans la bande originale. Et...
plus on est de fous, plus on rit.
Exactement, Cyril. Alors, ce matin, je voulais...
sur un pigeon rosé et un cabillaud.
Il s'arrête jamais de bosser, Cyril, c'est infernal. En revanche, si vous pouviez vous poser deux secondes que je puisse faire ma chronique...
Chacun voit midi à sa porte.
Voilà, ça c'est le bon sens aveyronnais. Voilà.
Pour savoir où on va, il faut pas oublier d'où on vient.
Ça, je vous le fais pas dire, Cyril, surtout quand on réussit tout, comme vous.
Tout ce qui brille n'est pas d'or.
On va peut-être arrêter sur les proverbes. Hein. Plutôt parler de votre actu, Cyril Lignac, vous sortez un livre intitulé Les Saisons, avec donc des recettes qui suivent les quatre saisons, comme Nagui vient de le dire. Et rien que de le dire, on peut prendre jusqu'à...
4 kilos.
Exactement. Mais bon, parlons santé. Vous qui êtes quelqu'un de moderne et concerné par la bonne alimentation, je me demandais si ce que vous pensiez de la cuisine végane.
C'est génial.
C'est génial, d'accord. Bah c'est ouais. Tout. Mais peut-être que vous pourriez nous donner une petite recette végane, comme ça.
Des pâtes avec une belle sauce tomate, un peu de... viande hachée.
Ça, c'est pas vegan. Non, vegan, c'est sans viande. Vous avez une vraie recette vegan?
Des pâtes.
Et voilà. Et ça marche avec quoi? Je sais pas, du tofu, des champignons?
Une côte de bœuf.
Ouais, définitivement, aveyronnais vegan, ça va pas ensemble. Mais Cyril Lignac, je sens que vous êtes à l'étroit dans votre costume de chef. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je sens que vous avez un talent de comédien. Je pense même que vous pourriez être un très bon comédien. Si ça vous dit, on peut faire un petit casting test. Je vous préviens, c'est un rôle de composition. Vous allez jouer une femme qui s'appelle Isabelle, qui est mariée à Patrick, qui était maire d'une petite commune du 92. Que nous appellerons Lavelois. Votre mari est en prison pour fraude fiscale et blanchiment d'argent et le reste, on va l'improviser. Allez, c'est parti. Isabelle, votre mari Patrick est en prison. Comment le vivez-vous?
C'est quelque chose de terrible pour moi.
Vous êtes déjà allé le voir au parloir de la prison?
J'ai eu cette chance de passer une demi-heure avec lui.
Et Patrick, lui, comment le vit-il?
Comme dans une colonie de vacances.
Non, attendez, restez dans le rôle, Cyril. Comment ça se passe le quotidien maintenant que vous vivez toute seule, Isabelle?
On fait comme on peut.
Là, c'est super. Quand la police est venue chercher votre mari, Patrick, vous l'avez vécu...
Avec beaucoup d'émotion.
Bah oui.
Je m'y attendais pas.
Bah oui, on pense toujours passer à travers les mailles du filet, et puis parfois, il y a quand même un prix à payer.
Donc le prix à payer, moi, j'ai rien fait de mal, je suis pas en cavale.
Non, mais je sais, enfin, il y a quand même eu fraude fiscale, sincèrement. Comment ça se passe quand vous faites vos déclarations d'impôts?
J'en fais pas beaucoup. Et quand j'en fais, ben j'ai plaisir à les faire.
Ben ouais. Pour terminer, Isabelle, que pensez-vous de l'acharnement des médias à votre rencontre?
Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi.
Bravo, Cyril. Écoutez, s'il y a un biopic, garde votre numéro, parce qu'avec une petite teinture blonde, des lunettes moches et une mini doudoune, à mon avis, vous avez le rôle.
Ça passe, merci. Bravo, Camille.
France Inter, Maggie. La bande originale.
Et on te retrouve, Tom Villa, ce jeudi, vendredi et samedi, 3 jours à Marseille pour ton spectacle Les Nommaissons.
Bah tiens, puisqu'on donne des rendez-vous, France Inter entame un 3e cycle de conférences intitulé Demain notre planète. Ça rejoint le souci de respecter les saisons. La première conférence changée aura lieu ce 21 novembre après-demain, donc à 20h au studio 104 et dans une centaine de salles de cinéma. Comment se mettre en mouvement pour engager une transition durable? Comment changer les modes de vie? Rêver le monde de demain. Mathieu Vidard et ses invités, dont Hubert Reeves aussi, Cynthia Fleury, tenteront d'éclairer ces questions très contemporaines. Vous pouvez trouver des informations et réserver sur franceinter.fr. Vous disiez tout à l'heure, Cyril Lignac, votre souci de suivre les saisons et de sauver l'agriculture. Ça, vous l'entendez de la part des producteurs, de ceux chez qui vous allez vous fournir? Ils sont inquiets?
Oui, ils sont inquiets. J'ai fait des émissions où on allait chez les agriculteurs, on allait du champ à l'assiette.
Ouais.
Donc j'ai fait vraiment un grand tour de France il y a quelques années, mais il y avait déjà ce souci, il y avait déjà cette concurrence, il y avait déjà le fait que nos agriculteurs se battent pas avec les mêmes armes que l'Espagne ou que ailleurs en termes de prix. Et donc du coup aujourd'hui, j'entends que quand on va faire les courses, ben on regarde quand même le prix. Et que forcément,
donc les agriculteurs devraient être contents qu'il y ait cet engouement pour consommer localement et suivre les saisons. Ça, les agriculteurs devraient l'entendre et apprécier ce discours anti aussi et qui va avec anti-pesticides, anti-glyphosate et anti-saloperies.
Sauf qu'aujourd'hui, les grossistes qui achètent en grande quantité les légumes n'achètent pas qu'en France. Mmh. Et donc du coup, ça inonde le marché de produits différents. Et quand vous allez
donc c'est au consommateur, c'est au consommateur,
c'est au consommateur de faire choix. De toute manière, aujourd'hui, on peut pas vivre dans un pays où on dit ben stop ce qui se passe à l'extérieur. Non. Sauf que le consommateur, il a le choix.
Après,
et choisir, c'est renoncer. Donc au bout d'un moment, il faut se dire que ben il y a des fraises, c'est pas la saison, il y a des tomates, c'est pas la saison, c'est pas français, et c'est aussi une manière de de repenser notre alimentation.
Je suis d'accord.
Pour aussi avoir le plaisir de retrouver les choses.
Non, mais c'est une manière de redonner le pouvoir aussi aux consommateurs.
Mais c'est une histoire de coût aussi. C'est une histoire de coût, j'entends complètement. Mais c'est-à-dire, en ce moment, il y a des clémentines, il y a les clémentines qui viennent de Corse, il y a les clémentines qui viennent d'Espagne ou les clémentines qui viennent d'Israël. C'est pas exactement le même prix.
Mais moi, je préfère manger moins. Voilà, mais c'est manger la Corse.
Je comprends, mais ça c'est parce qu'on est dans une problématique de riche, j'ai envie de vous dire en fait. C'est-à-dire que en faisant attention à notre panier, on a quand même les moyens de manger des clémentines. Sauf que si on veut acheter vraiment français, le prix il est quasiment du simple au double. Je le voyais moi dans mon simple quartier, c'est le prix de la clémentine bio corse. Elle est, mais c'est on en achète trois quoi, et on se dit déjà c'est pas mal. Donc si j'avais une famille à nourrir, si j'avais des enfants à qui je voulais donner une alimentation équilibrée, je pense que je serais embêtée.
Sauf que j'entends tout ça, et au bout d'un moment, bien entendu, que il faut, si on continue comme ça et si tout le monde parle comme ça, on s'en sortira pas. Non, on n'aura plus d'agriculture chez nous. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants?
Non, mais le réflexe, quand on fait des courses, il est immédiat. Il est,
je comprends.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Et pas, je vais aider la clémentine.
Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser?
Non, mais je suis d'accord. Ouais.
Mais on nous disait aussi 5 fruits et légumes par jour. Donc, il y a un moment, t'achètes en gros.
Le sujet, aujourd'hui, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me touche. Déjà, pour plusieurs raisons, c'est déjà souvent notre agriculture, c'est quand même la base de notre pays. Aujourd'hui, dans ma pâtisserie, on fait du beurre, du lait, de la crème, de la farine, des œufs français. Demain, je pourrais acheter de la crème, du lait ailleurs qu'en France. Je la paierais 30% moins cher et personne n'y verrait rien. Et mes gâteaux seraient, à mon sens, moins bon, parce que une crème fouettée française de Normandie, ça a quand même une autre gueule qu'une crème de la Pologne. Mais en effet, c'est plus cher. Ben, je m'assois sur une marge, mais c'est pas grave. Parce que je me dis que, quand je vois les enfants, les parents qui viennent acheter...
Mais même en vous asseyant sur une marge, Cyril, vous êtes quand même plus cher que la pâtisserie du coin de rue.
Ben oui,
c'est la même problématique.
C'est normal.
Je l'entends.
On paye vos choix.
Pas au final. Mais si
je l'entends, mais
pas tant que ça non plus. Pas 30%.
Est-ce que la baguette de pain, elle n'est pas guère plus chère chez moi que chez le boulanger d'à côté? Et aujourd'hui, on fait des croissants, on fait les viennoiseries nous-mêmes avec du beurre français, en respectant l'artisanat français.
Ça veut dire que c'est pas le consommateur qui met la main à la poche, c'est vous qui faites cet effort, considérant que c'est meilleur.
On va continuer d'en parler. Vous voyez, en tout cas, que c'est passionnant. Et puis, ce livre aussi est passionnant. Saison aux éditions de La Martinière, signé Cyril Lignac. Voici notre petite nouvelle. Tout va bien, Fanny?
Tout va bien.
Non.
Salut les vieux.
Oh, quoi les vieux?
Ça commence hyper mal.
C'est vrai que quand on est arrivé ce matin, on l'a prise pour la stagiaire. Mais c'est la période des stages de 3e, c'est pour ça qu'on s'est trompé.
Ben moi, c'est ma première fois ici et potentiellement la dernière si je continue à crier dans le micro. mais je suis très contente d'être là. Je suis très contente que France Inter ait pensé à moi pour remplacer ceux qui ne voulaient plus remplacer Agnès Hurstel pendant son congé de maternité. Je m'appelle Fanny Ruet, j'ai 25 ans. Donc quand je suis née, les auditeurs de France Inter étaient déjà vieux. Et non seulement j'ai 25 ans, mais en plus je fais moins. Et j'ai l'air tellement jeune que quand j'ai rencontré l'équipe, quand je suis rentrée dans le studio, j'ai entendu Nagui qui disait à Leïla, mais c'est pas bizarre de vouloir remplacer Agnès Hurstel par l'enfant d'Agnès Hurstel. Et Leïla lui a répondu, mais non, c'est pas sa fille, ça n'aurait pas de sens que l'enfant d'Agnès Hurstel ressemble à une version moche de Nora Hamzaoui. Donc,
non, c'est pas vrai.
Super. Non, mais bonne envie.
Je crois qu'elle t'a entendu, Leïla.
J'ai la voix qui porte.
Choquée, déçue, mais soit en soi, je savais que l'ambiance était pourrie dans cette équipe.
C'est vrai.
Je savais parce que Guillermo Guise m'avait prévenu. Parce que moi, je viens de Bruxelles aussi. Donc voilà,
t'es
en Belgique.
C'est une copine de Guillermo.
Mais oui.
Je crois qu'on prenait des produits locaux.
On a pris de l'argent.
On nous a rien dit. On va acheter à Bruxelles.
Vous avez caché la provenance.
Et ouais. Et ouais.
30% plus cher.
Mais donc, il m'avait prévenu. Si seulement. Il m'avait prévenu, on se connaît un peu, vu que la Belgique, c'est un petit pays, des fois, on se cogne. Et donc, entre deux commotions, je lui ai demandé de me briefer. Et il m'a dit, t'inquiète, ça va aller. Tu verras, le plus dur, c'est de s'intégrer, parce que c'est une équipe qui est hyper soudée, majoritairement contre Daniel Morin.
C'est vrai.
Donc, à la limite, si tu veux faire mouche, tape sur lui. J'ai pas envie. Honnêtement, non, j'ai pas envie. Moi, c'est je suis mignon. Une gentille fille, j'ai pas envie de faire ça.
Elle a de l'amitié pour toi.
Elle est très très bien.
Mais oui,
très,
moi, j'ai pas envie de tomber dans cette facilité, comme tous les chroniqueurs, de dire oui, Daniel Morin, il est sale, et en plus, il est toxicomane. Quand il est éternu, on doit appeler une déneigeuse. Voilà, c'est pas.
C'est pas faux.
Honnêtement, je trouve pas ça correct de frapper sur un homme à terre. En plus, il est hyper attachant avec ses petits yeux injectés de sang comme ça. tu sais jamais s'il rigole. Oui, convulse, mais je trouve que ça fait son charme.
Ah ouais, ça y est, il est parti, on est bien.
Daniel, mais non, mais non, non, non.
Moi je l'adore, Fanny.
Daniel,
je
reviens. Non, en plus, c'est le seul qui a été gentil avec moi quand je suis arrivée. Bon. Directement, il m'a mise à l'aise. Attends, Daniel, laisse-moi terminer. Il m'a directement mise à l'aise, il m'a pris sur ses genoux, il m'a dit tu peux m'appeler papa. Et puis il m'a appris à faire un garrot. Donc vraiment. Donc je l'aime beaucoup, Daniel. Ça me rend très triste de me dire qu'il en a plus pour longtemps. Mais malgré cette ambiance toxique dans l'émission, bah, professionnellement, je suis très heureuse d'être là. Parce que plein d'humoristes que j'aime beaucoup sont passés par cette émission. Philippe Labro, non.
Si, il est passé par l'émission.
Oui, mais c'est pas. Voilà.
Mais j'avais compris, mais merci.
Il est parti trop vite.
Non, moi, je pensais plutôt à Marina Rollman, à Guise, à Nour Hamzaoui. Donc ça me rend super fière de savoir que maintenant j'ai un point commun avec eux, autre que les problèmes d'articulation. Mais je suis stressée aussi parce que c'est un sacré challenge France Inter quand on a 12 ans comme moi. Il va falloir réussir à convaincre tout le monde que j'ai ma place ici, que j'ai mérité d'être pistonnée, parce que clairement c'est pas pour mon humour que je suis là. Allez, vu comme France Inter paye mal, ils ont pas les moyens de payer des bons.
Tu vas dire la vérité alors.
Ben oui, oui.
Pourquoi t'es là alors?
Ben en vrai, je sais pas encore, mais c'est clairement pas pour mon intelligence non plus, parce que je suis quand même la meuf qui pendant des années a confondu les mots Osobuco et Bukake. Heureusement, Cyril est là, il a dit qu'il allait m'expliquer après l'émission. Et puis je suis encore moins là pour ma culture, parce que moi quand je parle littérature, je dois vraiment me concentrer très très fort pour ne pas mélanger les œuvres d'Édouard Louis et Émile Louis. Deux œuvres conséquentes, oui, mais fort différentes. Et après cette chronique, les Français vont dire « Mais quelle autodérision, cette petite !» Classique chez nos amis belges. Eh bien non, les amis, c'est surtout de la lucidité et quand même un peu de vision, parce que je mets vos attentes tellement bas dans une première chronique que comme ça, bah, vous pourrez être que agréablement surpris pour la deuxième. Donc, à la semaine prochaine, et au pire, si ça marche pas pour moi, bah, j'aurai au moins appris à faire un garrot.
Bienvenue, Fanny.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ça va mieux. Non, alors là,
le problème, tu sais quoi, maintenant, Daniel Morin a changé de place. Il est allé se mettre à côté de Fanny Ruet. Et tu sais quoi, tu fais pervers, là, d'un coup, quand tu vas côte à côte.
Déjà avant, hein.
Oui, non, non. Non, parce que, oui, mais là, il est à sa place. On se dit, bon, c'est là où on l'a posé habituellement. Il est toujours au même endroit. Mais le fait que tu déplaces à côté d'elle et la différence d'âge, d'un coup, j'ai eu un flash.
Mais moi, il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée contre moi, Nagui. Contrairement à toi.
Il t'a fait sa propre bande, tu veux dire.
La bande originale de Cyril Lignac. Et quelle est l'importance de la musique dans votre vie, Cyril Lignac, est-elle très présente
ou quotidienne? Et de plus en plus d'ailleurs, c'est assez.
On n'écoute pas la musique en cuisine?
Non.
Ah bon.
Pourquoi pas?
Bah ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est.
Ouais, c'est vrai quand cuisine, vous le dites, je me dis oui et pourquoi pas, mais. Non, mais
est-ce que ça gueule dans vos cuisines?
Non, ça crie pas, non.
Non.
Non, non. Quand j'étais plus jeune,
ça criait
un peu, mais parce que je pense que ça crie quand tu maîtrises pas ton sujet. Quand tu maîtrises ton sujet, quand tu as la...
Quand on les charrette, quoi, quand il y a le feu.
Quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais où tu vas, il n'y a pas besoin d'appliquer la violence verbale pour faire que ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis dans l'explication, je suis dans la transmission, mes équipes travaillent toutes ensemble et il n'y a pas besoin de crier. C'est vrai que quand j'avais 25 ans et que j'ai pris mon premier poste de chef, toi, t'es déjà pas tranquille, hein.
T'as
juste peur que ça marche pas, donc forcément, tu mets la pression. Mais après.
Voici la musique qu'aime écouter Cyril Lignac en 77, période de sa naissance.
Bah oui, je suis né de naître.
Attends, on va écouter un peu. C'est la reprise.
Oh Lord, don't let me be
misunderstood. Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood, Leïla.
77, c'est donc l'année de votre naissance, Cyril Lignac. Et forcément, quand on pense à l'enfance, il y a des saveurs, j'imagine, des odeurs qui reviennent. Vous aviez la chance d'avoir des parents qui cuisinaient, tous les deux, qui aimaient ça. Vous parlez surtout de votre père et de sa façon de faire rôtir doucement la dinde de Noël. qu'est-ce qui vous vient comme saveur quand on évoque le foyer familial, parental?
Bah, beaucoup de tendresse, en fait. Ouais. C'est pas tellement la cuisine, c'est surtout, j'ai grandi dans une famille aimante et une famille unie. Et donc, du coup, ça me rappelle ça, en fait. La cuisine, c'est un prétexte, entre guillemets, mais c'est cette famille menée par ma maman qui était vraiment très unie, quoi. Donc hyper attachant, quoi. C'est réconfortant.
En 1997, vous écoutiez... Il y a eu un décès?
Non.
Bah, imagine.
Vous avez acheté une Mercedes, ouais, peut-être.
Non, mais c'est pour ça. Non, mais quand Elton John arrive et chante cette chanson, soit Marilyn Monroe est morte, soit Lady Di est morte. C'est...
Non, mais je suis
tu fais une fête, il y a Elton John qui chante ça, tu dis qui est mort. Ah,
mais non. Un petit créneau dans le tunnel de l'Alma.
Non, mais... Attends. Non, mais c'est selon les années, j'avais le choix de la musique. Donc,
c'est vrai
qu'à ce moment, j'écoute Elton John parce que... il fait sa tournée d'adieu et donc du coup je suis un garçon très mélancolique et donc c'est assez marrant
et la passion des fourrures roses aussi, mais ça c'est
mais avant de me coucher je peux écouter cette musique, c'est calme, c'est doux,
j'aime bien cette voix de vivre, c'est elle.
Elton John, c'est formidable, je dis, cette chanson là moi elle me fait flipper, quoi.
Mais non, pas moi.
Ah bon, ok, d'accord, très bien.
Pas moi, c'est...
Non, mais ça va bien avec la date, ça va bien. Parce que 97, et ce qu'on va raconter, 97, Cyril, j'essaie de vous aider là, on va pas m'aider aussi.
Je suis très mélancolique, ouais, j'aime bien cette musique.
Vous devenez apprenti en cuisine à l'auberge du Vieux Pont à Belcastel, dans l'Aveyron. Et c'est... Non mais oui. Et ça vient après un repas que vous vous êtes offert.
Ouais, c'est ça.
Avec de l'argent de votre
volé.
Grand-mère.
Exactement.
Non, que votre grand-mère vous avait donné pour Noël, c'est ça.
En fait, je suis rentré dans ce métier. Bon, j'ai appris la cuisine au lycée hôtelier, bon voilà. Et puis, ma grand-mère m'avait donné 500 francs à l'époque. Et il y avait un magazine de cuisine.
Énorme, ça.
Oui, beaucoup d'argent.
Bah oui.
Et du coup, je l'avais dépensé. Donc, j'avais surtout rien dit à mes parents parce que c'était beaucoup d'argent. Et j'étais parti avec un copain manger dans ce restaurant qui avait une étoile au Michelin.
Ouais.
Sauf que c'est quand même le 25, le soir de Noël. Donc, j'ai mangé. On a quand même allègrement festoyé à la maison.
Okay.
Et donc, on s'en va avec mon pote dans ce petit village. Donc, tu descends, il y a la brume. C'est un petit village de l'Aveyron, dans une cuvette, un très beau village. Et donc, on rentre, nous, deux minots, 18 ans. Menu dégustation, trotte de prix. Et donc, on mange. Et là, c'est la révélation. Mais la révélation pour moi. Je me dis, la cuisine, c'est ça. C'est pas la quiche Lorraine, le poulet sauté que j'apprends à l'école, en fait. La cuisine, c'est ça. Donc, le soir de Noël, 25, 18 ans, on paye en espèces, donc 500 francs, hein, cadeau. Donc, les sœurs, elles me regardent un peu, bon, c'est qui ces deux jeunes, d'où ils sortent. Et le lendemain, j'appelle, je me déboulonne pas, et je dis, voilà, on est les petits jeunes qui sont venus manger. Moi, j'ai envie d'apprendre la cuisine avec vous. Je voudrais faire un apprentissage là.
Génial.
Et elle me dit, mais on prend pas d'apprenti, on n'a jamais pris d'apprenti. Et j'avais déjà un peu de culot. J'ai dit, ben, ce sera la première fois.
Génial.
Donc, Nicole s'est dit, c'est qui ce jeune? Ok, je le reçois. Donc, j'y suis allé. Et donc, ben, je suis rentré en apprentissage là. Et c'est de là que ma carrière a commencé.
En 2000, trois ans après.
Ah, c'est à top.
Et c'est là que vous épousez Elton John et vous faites une grosse fête.
Les Daft Punk avec One More Time.
Là, c'est la teuf. On arrive à Paris, je découvre la vraie vie, je sors de l'Aveyron, la mélancolie d'Elton John, tu vois. C'est
et vous allez dans un restaurant, vous découvrez en fait la grande cuisine à Paris dans un restaurant qui est une référence aujourd'hui, notamment pour les végétariens.
Ouais, c'est l'Arpège, le restaurant d'Alain Passard qui est aussi une grande référence chez les chefs. Comment vous, là aussi au culot, vous faites la tournée des restos et vous dites bonjour, je suis dispo?
Au culot, je finis mon service militaire à la gendarmerie. Je regarde à Paris les restaurants qui me faisaient rêver et j'y vais, j'envoie des courriers. Et je me dis, ben, au diable l'avarice, il y a bien quelqu'un qui va me répondre. Bim, Alain Passard, je monte en train, j'arrive gare Austerlitz. Ça, c'était quelque chose de monter de l'Aveyron en train. d'arriver train de nuit, 7h du matin, Austerlitz.
Ah, c'est la double peine.
Ah ouais, le débarquement. j'arrive. Et du coup...
Dans une petite chambre en plus, je crois.
Dans une chambre de bois de 9 mètres carrés. Je n'ai jamais montré ça à ma mère parce que je pense qu'elle m'aurait rapatrié dans l'Aveyron. Mais j'étais heureux. Les murs étaient en couleur piscine, le liner de piscine.
Ouais. Ah, c'est hyper
parqué
beau,
avec des petits moutons par terre. Chambre de bois, toilette sur le palier. Tout ce qu'on adore.
Nickel, impeccable.
Nickel. Me voilà, Paris. Et Paris, me voilà.
Est-ce que à nous deux, Paris.
Alain Passard, il est... Alors, corrigez-moi si je me trompe, il fait beaucoup de légumes
et de
cuisine végétarienne. Mais il y a quand même quelques viandes ou quelques poissons à sa carte.
En fait, quand
il n'a pas tout barré.
Il n'a pas tout barré. Mais quand je suis arrivé à Paris, on rôtissait les viandes, on faisait des poissons entiers au four. Et là, il a eu la révélation de dire « Stop, j'arrête ». C'était 2000. « J'arrête ». Et je vais passer aux légumes. Et donc, il avait monté un potager, cultivé des légumes dans la Sarthe.
Qu'il a toujours.
Qu'il a toujours. Un dans la Sarthe, un autre à côté, à une heure
en
de Paris.
En région parisienne,
Et du coup, là, j'ai découvert la cuisine légumière. Donc, finalement, c'était
top. Et donc, de suivre les saisons aussi, déjà.
Et de suivre les saisons, d'apprendre que les bonnes tomates, finalement, elles sont là en septembre. Parce qu'elles sont gorgées de soleil tout l'été pour les manger. Enfin, c'était dingue. Vraiment une révélation pour moi.
Ça doit vous faire plaisir d'entendre ce discours-là, Sodette. Alors, je vais prendre mon élan pour pas faire de bêtises. Amzelouyan.
Bravo.
Ça va ?
C'est ça.
Ok, super. Je peux vous appeler Sodette ?
Vous pouvez m'appeler Sodé, oui.
Ça va m'arranger.
C'est plus court.
Vous êtes administratrice du réseau AMAP, Île-de-France. AMAP étant l'acronyme de...
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Voilà, c'est exactement le discours que tient Cyril Lignac depuis le début de cette émission. C'est ce que l'on redit avec aussi Alain Passard qui a ses propres potagers pour déjà maîtriser la qualité des produits qu'il sert dans ses restaurants ou dans son restaurant. Je
pense. Dans son restaurant, il en a qu'un.
Contrairement à Cyril Lignac, et on va parler de vos différentes adresses. Est-ce que ce discours-là est nouveau ? Vous avez besoin d'avoir des chefs comme Alain Passard, Cyril Lignac qui clame haut et fort qu'il faut consommer des produits locaux et de saison.
Je pense que on en a tous besoin, la planète et tous les humains. Mais je trouve ça super que tout le monde s'y mette, en fait, que non seulement les associations, les professionnels, les agriculteurs, etc., mais aussi les chefs et la grande cuisine.
Maintenir l'agriculture paysanne, ça veut dire se servir et aller acheter des produits qui sont fabriqués donc en fonction des saisons et en fonction des régions. Est-ce que ça veut aussi dire créer de nouveaux endroits, donc de nouveaux paysans et les aider aussi à avoir de ces nouvelles terres?
Oui, ça veut dire essayer de... C'est pas tant se servir que d'avoir un rapport direct en fait avec les producteurs. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est hyper cloisonnée. C'est-à-dire que vous achetez, vous avez parlé des grossistes, il y a beaucoup d'intermédiaires en fait avant qu'un produit puisse être acheté. Les AMAP,
c'est pour ça que les produits sont plus chers, ce que disait tout à l'heure.
Exactement, c'est ce qui explique en partie les prix. Nous, les AMAP, c'est un système qui est complètement en direct.
Sans intermédiaire.
Sans intermédiaire aucun. Donc il y a un producteur, une productrice qui est en rapport direct avec des citoyens, des acheteurs. Donc eux, ils sont heureux et ravis de savoir... de récupérer chaque semaine un panier donc ils savent comment c'est produit, ils savent d'où ça vient.
Oui, parce que c'est un système d'abonnement.
D'abonnement à l'année.
On paye et on a son panier sans savoir d'ailleurs ce qu'il y aura dans le panier.
Exactement.
C'est en fonction de la production où on découvre de nouveaux légumes. Tu voulais dire ça?
Je voulais juste recentrer la photo de la map. Ça a sauvé des agriculteurs. C'est-à-dire que chaque semaine, toute la récolte des producteurs part dans des paniers qui arrivent dans les villes où les gens vont récupérer, s'abonnent. Alain Passard le fait aussi. Ce que je trouve formidable, puisqu'on parlait d'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est aussi une manière d'avoir des bons légumes, de sauver, de faire un geste pour les agriculteurs, de sauver leur travail, en même temps de payer pas trop cher et de t'obliger à cuisiner les produits de saison. Et finalement, tu récupères ton panier et tu sais ce que tu as dedans.
Mais alors ça, c'est peut-être bien.
Je trouve ça génial. Vraiment, c'est...
Écoutez-moi bien,
c'est la révolution agricole.
Je vais jouer l'avocat du diable, comme on dit. C'est facile quand on s'appelle Alain Passard ou Cyril Lignac de recevoir un panier et sans trop savoir ce qu'il y a dedans et de dire « je vais toujours trouver quelque chose à faire ». Mais pour des simples consommateurs qui ne sont pas des chefs, et encore moins des chefs étoilés, on se retrouve avec des trucs... On ne sait même pas ce que c'est, on ne les reconnaît pas.
Oui, mais c'est bien ça le drame.
Non, mais mais voilà. Et
là, c'est bien ça, le drame. C'est fou. Hein.
Et non, justement, non. Au contraire, si ça peut permettre aux gens de découvrir des légumes, d'aller sur Internet, de trouver une recette, de faire manger du pané, de faire manger du chou-fleur, graffiti, coloré, je trouve ça super.
Qu'est-ce
et là, on
ne
parle plus d'argent.
Moi, je dis que quand même, en ce moment, on a quand même des patates. C'est quand même, tout le monde connaît, je pense, eh oui. Les pommes de terre.
Tu connais, Nagui?
On a parlé beaucoup de potiron, petit marron. Il y en a aussi beaucoup.
On cuisine, on fait pas, il y a différentes patates, et ça dépend de ce qu'on en fait des patates.
Pierre?
Non, mais je veux dire,
Non, mais ça me fait plaisir.
Je te fous de moi.
Non, je suis
tellement content. Je disais que c'était ta première, et la première, et la dernière fois. T'as fait deux fois en une, hein.
Non, mais c'est vrai qu'on peut découvrir des nouveaux légumes. Mais c'est pas que de la nouveauté non plus.
Donc c'est pas si difficile que ça à vos yeux. Comment ça fonctionne? On s'abonne comment?
Alors d'abord on essaye de trouver une AMAP près de chez soi.
Donc on va sur Internet.
Il y a beaucoup de demandes quand on est en ville. Il y a malheureusement pas beaucoup de paysans installés. On en parlait tout à l'heure. Donc pas beaucoup de disponibilité.
On trouve la MAP comment? Vous avez un site internet?
On a des sites internet.
On tape ça, son adresse et là il y a une.
Vous tapez trouver une AMAP.
Il faut aussi prendre tôt dans l'année, hein, faut le dire. C'est-à-dire j'ai l'impression que c'est un peu comme les rentrées scolaires ou de la place en crèche. C'est-à-dire que quand on s'y met un peu milieu d'année, c'est compliqué.
C'est parce que c'est le succès.
Expérience personnelle, mais
c'est la rançon du succès ou pas?
C'est la rançon du. Je pense que c'est la compréhension et le fait que la conscientisation des gens, les gens ont compris que les saisons étaient importantes.
Donc si on vient et qu'on s'inscrit et qu'il n'y a plus de place, est-ce
on
que
peut
déjà...
être sur liste d'attente, on peut et... récupérer les paniers des vendus.
Mais est-ce que ça, vous recevez ce message-là comme étant il y a de la demande, à nous d'augmenter aussi l'offre?
Alors nous, ce qu'on fait en tant que réseau et les associations, on met en relation les citoyens, les acheteurs avec les producteurs. On essaie de créer des nouvelles AMAP. Et surtout, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est d'installer des nouveaux paysans. C'est surtout ça, parce que
c'est ce que je comprends quand vous dites créer de nouvelles AMAP, c'est ça aussi, c'est de nouveaux paysans.
Ça va jusqu'à installer des nouveaux paysans, oui.
D'accord. Et alors là, comment faire pour faire partie de l'AMAP, c'est-à-dire pour être producteur de légumes et être distribué par AMAP?
Il faut nous contacter en fait. En fait, c'est pas tant comment être un producteur et être en rapport avec des acheteurs. C'est surtout aujourd'hui, on a beaucoup notre agriculture, elle est très industrielle en fait.
Trop.
Beaucoup trop, bien sûr. Mmh. Elle est monolithique et donc c'est surtout ça, c'est changer les modes de production. Et donc quand on a un nouveau installé qui en fait veut vendre en AMAP et qui produit sans intrants chimiques. En Île-de-France, en fait, ils nous contactent et nous, on le met en rapport.
Est-ce que ça existe dans les autres pays, ça, ou est-ce que c'est typiquement français, AMAP?
Alors oui, ça existe dans d'autres pays. C'est pas une innovation française. La première a été créée en France en 2001, mais en fait, ça date des années 70 et ça vient du Japon.
Carrément. Ah ouais,
carrément.
Ouais,
donc ça vient du Japon. Ça a fait le tour du monde, en fait, avant d'arriver en France.
Et même la MAP n'est pas un produit local. On ne sait plus comment faire.
Mais maintenant qu'il y a une grosse demande, pourquoi ne pas limiter l'offre? Comme ça, vous pouvez faire un maximum de fric.
Vous cherchez un gestionnaire ou pas?
Oh là, ce mec est pourri.
J'essaie de trouver des solutions maintenant.
On tape juste AMAP dans n'importe quel moteur de recherche et on tombe sur vous, quel que soit l'endroit. Est-ce qu'il y a des régions qui sont mieux achalandées que d'autres?
Oui, c'est vrai que les régions plus citadines sont plus demandeuses. Les régions où il y a beaucoup plus de fermes, où les gens vont plus à la ferme, sur les marchés, c'est moins demandé. Ouais. Mais
oui, parce qu'en région, souvent, les gens font ça avant la création des AMAP. C'est-à-dire aller chez
eux, chez le voisin.
Aller acheter ses œufs, chercher son lait, et ils n'ont pas besoin d'AMAP pour le faire, c'est sûr.
Merci beaucoup, Sodé, d'être venu vanter les réseaux AMAP. Vous faites partie du réseau AMAP Île-de-France, mais il y en a 150 en tout en France, c'est ça?
Il y en a 2000. Il y en a plus de 2000.
D'accord. Alors, moi, on me dit 100.
300 groupes. Il y en a 300. Il y en a plus de 300 en Île-de-France, mais dans toute la France, il y en a à peu près 2000.
Ah ouais, d'accord.
2000 groupes.
Très bien, pardon. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Oui. je suis très gêné parce que je découvre la phrase que je dois dire.
Mais dites-le.
Il y a un musée du vagin qui vient d'ouvrir à Londres.
Oui, Nagui. Alors,
c'est le musée qui vient d'ouvrir à Londres.
C'est comme un musée normal, sauf que s'ils avaient la Joconde, on ne verrait pas sa tête, mais son vagin. Ce qui serait logique parce que ça fait quand même 500 ans qu'elle nous sourit. Je pense qu'à un moment, on peut conclure.
On en parle après les infos. La bande originale avec Léla Gourmandi, Fanny Ruet. Bonjour.
Bonjour.
Daniel Morin, bonjour.
Bonjour Nagui.
Je veux dire bonjour aussi.
Bonjour Nagui.
Vous avez
bonsoir.
Tous.
Ah,
Tanguy Massureau. Bonjour. Et notre invité Cyril Lignac.
Bravo.
Kissine, c'est 80 recettes avec ce sourire qui vient barrer la une de ce livre aux éditions de La Martinière et une table vide, totalement vide, un verre d'eau, un quignon de pain. Basta.
C'était la fin de mois sur la photo.
Il y a tout à faire. Quoi.
Un couteau, une petite tarte.
C'est la vie actuellement de Patrick Balkany.
Il n'y a rien.
C'est le minimalisme.
Il n'y a rien. On se dit, le pauvre, il a table, il mange pas. Il est tout maigre.
Il
est tout maigre.
On va lui amener à manger un petit Deliveroo.
Les recettes. Et alors, moi, je voulais souligner aussi ce qu'il y a à la fin de votre livre, les bocaux.
Ah oui. Ça, c'est l'Aveyron. Parce que les hivers étaient rudes. Non, mais je trouve que c'est super de faire son vinaigre. Selon les saisons, on récupère des agrumes, des fruits, des aromates.
Pardon, là aussi, c'est un réflexe de nos grands-parents.
Oui.
Lorsque, au mois d'août, les pieds de tomates fournissent tellement de tomates qu'on ne peut pas les manger toutes pendant qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait des bocaux, on en fait des sauces, on en fait des confits, on les garde. Exactement.
Mais
pareil pour les fraises, pareil pour les cerises.
Pourquoi on changerait les traditions qui sont les nôtres ? Donc je ne dis pas, bien entendu, qu'on doit faire 40 variétés de vinaigre, mais... S'il y a un peu de sureau, si on est dans le sud de la France ou dans sa région, il y a des baies dans les chemins, dans la nature.
Donc c'est le côté quoi ? Il ne faut pas gâcher, on peut faire de tout, on
peut
varier.
C'est surtout un plaisir. Aujourd'hui, quand on parle, on entend la cuisine comme une corvée, comme quelque chose que l'on n'aime pas, comme quelque chose qui prend du temps.
Mais parce qu'on sait
ça
pas.
Prend du temps.
Parce qu'on ne sait pas, et ça prend du temps, il a
mais
raison.
On prend du temps à faire autre chose. Donc c'est juste une histoire d'envie et de temps. Si dimanche j'ai envie d'aller au marché, d'aller acheter des baies, de mettre un peu des zestes d'orange, des zestes de citron, de faire bouillir un vinaigre, de le mettre dans une conserve et de la mettre au fond d'un placard et d'attendre l'été pour m'en servir, au demeurant ça prend pas beaucoup de temps. Sauf qu'il faut en avoir envie.
Ouais, il faut l'idée aussi.
Et aujourd'hui, là on est citadin, on vit à Paris, mais il y a plein de gens qui habitent en campagne et qui ont envie de vivre autrement que dans cette frénésie parisienne. Voilà. Donc j'aime l'énergie citadine, mais j'ai mes racines qui me rappelle à ça.
Et puis il y a du boulot à Paris. Il y a Aupré qui est le restaurant qui est dans le 6e arrondissement avec toutes les influences du monde. Il y a le bar des Prés, on va dire plutôt quoi, asiatique.
Oui, japonais, cru.
Il y a le Chardenou, lui qui est dédié aux poissons dont on parlait tout à l'heure et qui est dans le 11e arrondissement.
Coquillages et crustacés.
À Paris, voilà. Et puis combien de pâtisseries maintenant ? 5 ?
5.
C'est fou.
Et la chocolaterie. Qui vient rajouter à ça. Alors le chocolat, il vient d'où le chocolat ?
Ils viennent de partout dans le monde, parce qu'on travaille à la maison Valrhona avec des grands crus, donc ça peut venir de Papouasie, du Venezuela.
Le chocolat vient forcément du bout du monde, il n'y a pas de chocolat français. Non, mais je pose la question.
J'ai pas vu de cacaoyer en France, mais ça vient plutôt des pays chauds, humides, le Brésil, Madagascar, toutes ces îles.
Amérique latine, Afrique,
partout. Et du coup, nous, on fabrique pas notre chocolat à base de fèves de cacao comme font certains chocolatiers. Moi, j'achète des crus de chocolat que l'on fond, que l'on transforme, avec à l'intérieur on fait des tablettes, on fabrique par exemple tous nos pralinés, les confitures, toutes ces choses-là on fabrique, et ensuite on met à l'intérieur des bonbons.
Ouais.
Ça vous laisse bouche
bée. Oui, bonbons, qu'est-ce que vous appelez des bonbons ?
Le bonbon au chocolat, c'est un chocolat fourré. Ça s'appelle un bonbon.
Okay, comme un chocobon, Nagui.
Non, mais dès l'instant où vous rajoutez une noisette, une amande ou quoi, ça devient
un
bonbon.
Un bonbon, oui, sinon c'est une tablette de chocolat.
D'accord. Vous parlez de cru comme si le chocolat était comme un vin, quoi.
Ah oui, c'est comme un vin. Puisqu'il y a différents crus selon les provenances et selon le taux de cacao. Plus ou moins amer, plus ou moins sucré, plus ou moins avec des saveurs.
Vous faites partie de ceux qui disent que le vrai chocolat est forcément chocolat noir ?
Ah, pas moi.
Il peut être au lait, il peut être praliné, il peut être blanc, alors, caramel, blanc. Caramel beurre salé aussi.
Alors, c'est alors de toute manière, c'est comme dans le café. Dans le café, maintenant, il y a des grands crus de ouais. café. Mais pour moi, le chocolat, c'est pas que le chocolat noir fort avec du caractère. Le chocolat, c'est aussi du chocolat au lait. Alors, je suis d'accord que le chocolat blanc, c'est plus du beurre de cacao. On est tous d'accord, mais dans le chocolat lacté. Bien entendu qu'il y a des saveurs totalement différentes. Et je préfère le chocolat au lait parce que c'est comme un calé, en fait. C'est un truc
c'est
qui
plus doux. Ouais.
C'est un truc qui tiens, je suis un petit enfant.
Je vois. Saison au pluriel, s'il vous plaît, puisqu'il a vécu 80 saisons à Paris. Et que donc, il est attiré de plus en plus par le respect des saisons, de la consommation locale et de suivre les saisons. Ce qui devient un réflexe que nous devrions tous avoir.
Et je trouve
avoir.
Qu'à Paris, il y a beaucoup... À Paris, c'est beau, les saisons. Parce que les feuilles changent.
Enfin, c'est beau partout, les saisons.
Oui, mais là, on parle de Paris.
Qui ?
Ben, dans le livre.
Ouais, c'est pas un livre de Parigot, quoi.
Mais c'est un livre qui est aussi dicté par l'amour que j'ai de Paris.
Je trouve que, au contraire, comme vous voulez renouer, s'il y a bien un endroit où on se rend pas toujours compte des saisons, c'est peut-être à Paris, et vous renouez avec cet amour des saisons. Et je pense que, quand même, que vous vouliez ou non, le sang avironné qui coule dans vos veines vous pousse à aimer ces saisons, où qu'elles soient, que ce soit à Paris, à Lille, Bordeaux, Nantes ou Brest. Tanguy Pastureau nous a rejoint. D'après une rumeur qui circule à France Inter, Tanguy, vous n'avez pas de vagin.
Non, Nagui, puisque je suis un homme. Et malgré le handicap que représente le fait d'avoir un pénis, quand on fait du poney, on n'est pas super bien installé. Eh bien, j'ai choisi de le rester plutôt par flemme, parce que j'ai pas envie de refaire tous mes papiers, que par passion. Parce qu'avoir un pénis, c'est un enfer. Prenez Aymeric Caron, qui est vegan. À cause du sien, il ne peut pas faire de nudisme, parce qu'à la supérette, stimulé comme il est par le végétal, il est capable d'entrer en érection au rayon fruits. Et s'il est devant les bananes, il va forcément chercher à se comparer. C'est pour ça que moi, je n'achète que des abricots sec, puisque je devrais pouvoir les battre jusqu'à mes 75 ans. Le pénis est un appendice maudit qui nous entraîne vers le gouffre. Si DSK n'en avait pas eu, cette fameuse soirée à l'hôtel, il l'aurait passé à pioncer. Aujourd'hui, il en serait à son deuxième mandat et Emmanuel Macron aurait pu finir sa scolarité. C'est fou de penser que depuis des millénaires, la société entière s'est organisée autour de gens ayant ce truc-là dans le calbut qui les déstabilise. Les femmes devraient être aux commandes. Greta Thunberg, la seule gosse à faire la même tête que Jean-Pierre Bacri, à 16 ans, se bat pour la planète parce qu'elle n'a pas de pénis, elle peut se consacrer à la Terre. Si vous êtes un gars de 16 ans, vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé à tenter de maîtriser votre pénis. Ce qui revient à dresser 12 lions pour Félindra de Fort Boyard. Jamais une femme ne s'achètera de SUV pour compenser le fait d'avoir un micro-vagin. D'ailleurs, ça n'existe pas. La femme, c'est un être standardisé, un peu comme une commode Ikea, mais sans tiroir. Donc le vagin, on n'y pense jamais parce qu'il est moins visible. C'est son point commun avec François Bayrou. Seulement, on est en train de changer des les pénis, c'est fini. En avoir un, c'est aussi ringard que d'écouter Ophélie Winter. J'ai essayé de vendre le mien sur eBay, je l'ai mis à 2€, aucune offre. Même provenant du marché noir du trafic d'organes. Alors que pour 4€, le lot de 12 cerveaux des ch'tis de W9 est parti en une demi-heure. Aujourd'hui, les femmes sont au même niveau que les mecs. En politique, avant, elles devaient en faire 10 fois plus que les hommes pour s'en sortir. C'est fini. Ségolène Royal, en 2 ans de mission dans l'Arctique, elle a vu la neige une fois. 3 heures sur place, elle a caressé un Yuski, puis un Eskimo parce qu'elle n'avait pas ses lentilles. Le Yuski a fait ouf, l'Eskimo a dit entendu, je voterai pour vous, et c'était plié. Elle a la vie d'un politique homme. Regardez les Balkany. Quand monsieur est en tôle, c'est madame qui gère, et c'est pareil parce que les gens sont attachés au nom Balkany. À Levallois, vous présentez une chèvre, Biquette Balkany, au municipal, elle est élue. Bâton de 10 000 voix, le Tekel, Rex Balkany. Les Balkany incarnent cette modernité finie, le genre. Si demain Jean-Pierre Pernaut change de sexe et vient en jupe, les gens s'en foutront tant qu'il ouvre son JT sur la première gelée hivernale dans la région de Dijon. On tend peu à peu vers une égalité totale. Exemple, en Islande, existe un musée du pénis qui fait 10 000 mètres carrés, seulement 3 mètres carrés quand il fait froid. On y trouve des phallus d'animaux, d'ours, mais aussi de dauphins. Et on comprend mieux en les voyant pourquoi dans le Grand Bleu, le monsieur les choisit eux plutôt que sa femme.
Et donc, il y a un musée du vagin qui arrive.
Et oui, il vient d'ouvrir ce week-end en réponse à en Grande-Bretagne, le pays de Boris Johnson, qui avec sa coiffure ressemble d'ailleurs fort à un pénis de yak. Il est à Londres, et c'est le premier musée dédié au sexe des femmes. Alors, il y a des œuvres en forme de vagin, en réponse, dit la fondatrice, au musée du pénis de Reykjavik, puisque la concurrence, ça stimule. Hein. Si demain je lance un musée de la fesse gauche, dans le quart d'heure, un Espagnol lancera celui de la fesse droite, ou un Suisse, celui de l'anus, parce que ces gens-là refusent de choisir. Il y a aussi au musée du vagin une partie informative, puisque la fondatrice explique que la moitié des Anglaises est infoutue de localiser précisément son vagin, parce que l'appareil génital féminin est très complexe. C'est comme un plan du métro l'été quand les trois quarts des stations sont fermées pour travaux. Alors que l'appareil masculin, c'est Google Maps avec la 5G. Direct, on cherche ce qu'on trouve. On trouve ce qu'on cherche. Or, cette dame explique que ça permet de définir la notion de consentement sexuel, parce qu'une femme qui ne connaît pas son corps ne maîtrise pas les limites de ce qu'on peut lui faire subir. À titre de rappel, déjà, il faut que la personne dise oui, hein, ou yes si elle est anglaise, ou yes, oui si elle a la double nationalité, voire si yes, oui, da si elle est pour le multiculturalisme. TV5 Monde, la chaîne qu'on garde quand on est à l'étranger, qui a rien d'autre en français à la télé, a interviewé des visiteuses du musée, dont Anna, 20 ans, qui dit « Je trouve ça génial d'entendre quelqu'un parler ouvertement du vagin, parce que les gens n'osent pas. Quand je prends un café avec Daniel Morin, jamais je lui dis Daniel si on parlait vagin. C'est pour ça qu'on parle plutôt du temps qu'il fait. » Et Anna ajoute « Je viens d'une famille de la classe moyenne et on ne parle pas du tout de ça entre nous. Mais enfin, il n'y a pas que dans la classe moyenne. Nulle part on en parle. Le sexe des femmes est tabou. En karaoké, le zizi de Pierre Perret, on chante tous. Hein. Le petit, le gros, le laid, le mou, celui de Nagui, celui de Tanguy. Hein. Mais jamais on ne chante le vagin. Personne ne chante tout. Vous saurez tout sur le zouzou, celui de Madame de Fontenay, exposé au puits du fou. Celui de Martine Aubry qui jamais ne sourit. Non, on le passe sous silence. Et c'est ça la première des inégalités. C'est qu'une vanne de texte sur son pénis n'a pas son pendant. Et là, je réalise que le mot est mal choisi. Bon, son pendant féminin. Celle de l'Africaine qui fait pipi dans l'eau et trouve qu'elle est fraîche n'existe pas. Et tant mieux d'ailleurs. Bref, pénis partout, justice nulle part. Allons vers l'égalité à ce niveau-là aussi. Merci.
Merci. La boule originale.
Et on va pouvoir manger local aussi parce que Tanguy joue à Paris à partir du 27 janvier, c'est au Théâtre de la Renaissance.
Oui, je viendrai tout entier.
Formidable, ouais. C'est un bon créneau l'idée de reprendre le zizi en zézette.
Eh ben on le fait si vous voulez.
Non, fais-le toi.
D'abord,
on fera les cornes derrière.
On va faire taratata après si je fais taratata avec ça, franchement je l'écris.
Franchement j'arrête.
D'accord. Ok, bon, c'est honnête. Donc adieu, au revoir.
Voilà. Allez, des questions sur l'actualité culturelle. Tout le monde peut essayer de trouver la réponse, même Fanny. Quels acteurs ou actrices ont été contactés pour participer à des spots contre les discriminations?
Il faut donner leur nom?
Ouais, non, ils font partie... Non, c'est un groupe d'acteurs, d'actrices qui ont été contactés pour participer à des
Comédie
spots
française.
Contre les discriminations. Non.
D'une série télévisée, oui. Plus belle la vie.
Plus belle la vie. Oui. Absolument. Le défenseur des droits, c'est Jacques Toubon, qui a signé vendredi un partenariat avec France Télévisions et la société de production de la série française devenue culte. Est-ce qu'on vous a déjà demandé, Cyril Lignac, de prêter votre image, soit à une cause, soit à de communication?
J'ai fait AIDS contre le sida.
Ouais. C'est une campagne d'affichage ou c'était des
spots? Une campagne d'affichage, ouais. D'accord. Avec des photos assez dures. Je me souviens de ça. C'était fort.
Et vous êtes.
Et j'étais content de le faire. J'ai fait aussi une fois une photo en talon pour la protection des femmes, ouais. Pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
Mais voilà, alors, est-ce que vous choisissez vos combats? Parce que j'imagine qu'on vous demande de participer soit à des soirées, à des trophées, ou à des campagnes de pub pour défendre des causes, ou accueillir des enfants qui ont un rêve, vous rencontrez aussi. Vous pouvez être vous-même l'objet du travail d'une association. Est-ce que vous faites un tri? Comment dire oui à tout? Parce qu'il y a un moment où vous êtes débordé. Alors,
je peux pas dire oui à
donc
tout.
Quels sont vos combats?
Quand je trouve la cause forte, ouais. Quand je trouve que je me sens intégré à ça, et surtout il y a une chose que je fais beaucoup et tout au long de l'année, c'est les rêves d'enfants, parce que ça c'est tellement important et tellement dur, et du coup ça c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je suis engagé là-dedans toute l'année. Dès qu'un enfant,
dès qu'un enfant demande.
Ah oui.
C'est comme ça que je suis rentrée dans la bande, en fait.
C'est ça. Le point commun entre Big Flo et Oli et Tony Parker.
Ils vont intégrer la troupe des enfoirés.
Non.
Ils vont intégrer une nouvelle télé-réalité.
C'est pas loin.
Musique Grévin, Netflix. Non. Ils vont faire une série, ils vont créer un truc ensemble, ils vont jouer, ouais. Ils vont jouer leur propre rôle, ils vont jouer dans une série.
10%.
Pour les jeunes, pour le nouveau public.
C'est un peu... alors...
Donne-moi le point, ça ira plus vite. Donne-moi le point, on n'en parle plus. Franchement,
tu dis quoi ?
Est-ce qu'on va les mettre sur une île ou pas ?
Non.
Ah.
Ils vont participer à un programme commun pour Netflix.
C'est pas pour Netflix, c'est pour Amazon.
Alors, non, c'est pas grave.
C'est pas pour Amazon.
C'est une plateforme, quoi.
Mais un show d'aventure inédit, mêlant course et enquête, tourné en Australie. L'émission verra s'affronter quatre équipes de personnalités.
C'est une île.
Accompagnées de leurs proches. Elle est grande, hein. C'est un continent plutôt, si voilà. Dans chaque trio, un membre va accepter de disparaître dès le début de l'aventure et se cacher dans un lieu inconnu des autres. Ce genre d'émission, on vous a proposé de participer ou je sais pas, ou Danse avec les stars.
Pékin Express, peut-être, ouais. Vous l'avez fait ou pas?
Mais il a fait la star,
non, mais je fais pas.
Non, c'est pas lui, c'est Jean-Pascal.
Non, mais je fais pas. Je fais pas parce que j'ai déjà assez à faire avec mes propres émissions autour de la cuisine. Mmh. Et en plus, avec tous les restaurants et ce que j'ai à gérer, donc je fais pas des émissions autres que ce qui concerne mon sujet.
Fort Boyard, non?
Parce que vous êtes votre propre producteur?
Non. Oui.
Très bien. Ah oui, donc c'est pas que pour ça.
Je peux faire une émission de cuisine avec une autre boîte de prod. Le sujet est pas là. C'est juste que je fais déjà beaucoup.
Et il y a tous les mercredis le meilleur pâtissier.
Ouais.
Donc dès demain à 21h sur M6, c'est la fin en ce moment de la 8e saison.
Ouais.
Et puis donc prochainement il y aura Chef contre Chef où là il y a un clash entre vous et Jean-François Piège.
C'est
sur un ring, t'es mort. Hein.
Non, c'est pas un clash, c'est pas un clash.
Vous battez avec de la nourriture.
Ouais. Le principe c'est deux potes qui vont sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Donc là, on est parti à Naples. Et on va s'affronter, façon de parler, autour de la pizza, avec les mamans, autour de la lasagne, chez elles. Et on part d'épreuve en épreuve.
Vous essayez de reproduire des plats locaux et historiquement ancrés. Donc à Naples, la napolitaine.
Exactement.
Évidemment.
Le principe, on est allé chez le plus grand... Pizzaiolo de Naples, où la pizza est une religion. Donc on arrive, Jean-François et moi, première étape, il nous montre, on refait, on goûte, on boit, bon, c'est raté, c'est pas facile.
C'est sûrement pas raté, mais j'imagine que vous rajoutez chacun votre truc à vous.
D'abord, on refait la même recette.
Identique.
Et là,
d'accord.
Il dit, bon, ben, c'est bien, c'est pas bien. Et après, on doit chacun faire l'interprétation de sa pizza. Et là, c'est le chef napolitain qui juge. Et là, c'est Jean-François ou moi qui gagne. Et on aligne les points jusqu'à la fin.
Parce qu'on va
vous voir. Et à la fin, c'est Laïla qui gagne.
Ouais, c'est moi. Et on peut vous voir en difficulté parce que moi, franchement, les émissions, vous êtes tellement doués, forcément, je suis là, je regarde chez moi et je me dis forcément, ça ne m'arrivera donc jamais. Et là, vous voir en difficulté sur une pizza, ça peut faire plaisir.
Ah ouais, c'est un peu galère. Ouais.
Et ça va être, ça va être l'excellence, quoi.
Non, mais c'est super, oui, mais.
Lignac piège, c'est classe.
Bah c'est classe.
C'est classe, c'est classe, c'est classe.
C'est joli.
Passons de l'excellence à tout autre chose. Voici Daniel Morin.
Mais quelle ordure.
Ah, la chute.
Maudit, maudit, maudit. On le sait, les amis, le mois de novembre est un mois maudit. Fini le petit blouson coupe-vent, doit se couvrir vraiment. On bouffe des endives et du potimarron 3 fois par jour. On plisse les yeux à cause de la pluie, on marche vite pour être à l'abri plus rapidement. Du coup, on fait moins gaffe et on finit par se casser la gueule sur les feuilles mortes qui jonchent le sol. Il y a des milliers de vieux qui chaque jour se cassent quelque chose en tombant dans la rue. Et vu que nous vivons une époque de merde où l'individualisme rampant a gagné le combat contre la solidarité et l'entraide entre les hommes de bonne volonté. Car oui, les petits vieux au sol, qui, la larme à l'œil, lèvent péniblement un bras pour signifier leur détresse, ils ne trouvent personne pour les aider à se relever. Aux heures de pointe, ils se font même marcher sur la gueule, les pauvres vieux. Les os du corps brisés, la moelle épinière rompue, le visage tuméfié et en sang, ils sont là, immobiles, à attendre la mort. Et la mort, oui, la mort, elle finit par arriver. Et de quelle façon, mes frères, de quelle façon? Quand la foule s'est dispersée, l'odeur du sang finit par attirer des chiens. Oui, des chiens qui se mettent à dévorer les pauvres petits vieux. Et ils y mettent du cœur, les clébards, croyez-moi, car comme l'os du vieux est fragile, ils croquent sous la dent du chien qui s'en régale. Mais oui, miam miam, se dit le toutou, qui ne se fait pas prier pour avaler un ou deux membres sous le regard fataliste du petit vieux qui, toujours vivant, se fait dévorer cru et sans pitié. quand on ne se casse rien, on a quand même une trace bien dégueu sur la cuisse, hein, qu'on va traîner toute la journée. Dans les bureaux, ça renifle, ça tousse, c'est le début des rhumes, des angines, l'arrivée de la grippe, on est crevé, et quand on regarde le calendrier, on constate qu'il reste encore plus d'un mois à tirer avant les vacances de Noël. Eh bien, malgré tout ça, il existe des individus qui n'hésitent pas à charger la mule. En novembre, en plus d'être le mois le plus déprimant de l'année, le mois a été choisi par un groupe plutôt loufoque d'être le mois du No Nut Challenge. Le No Nut Challenge, c'est l'engagement à ne pas avoir de rapport sexuel pendant un mois entier, en couple ou même tout seul. Ah, ils sont pleins à le suivre, ce challenge à la con, plein, hein, les garçons comme les filles. Là, on est le 19 oui. novembre. Tu imagines quelqu'un qui suit consciencieusement le No Nut Challenge, qui vient d'apprendre que son papy s'est fait bouffer par un berger allemand, Rudy Rivoli, et qui se casse la gueule sur des feuilles mortes en descendant du bus. Il y a de quoi devenir dingue, et comme si ça suffisait pas. Source de stress en plus, on te rajoute. On déclare le mois de novembre, mois sans tabac. Alors je peux te dire que si je viens de me casser la gueule dans la rue, que j'ai la jambe gauche couverte de boue, de feuilles mortes et de merde de pigeon, si je fais une pause clope et qu'il y a un con qui se pointe vers moi en disant « Désolé Daniel, c'est le mois sans tabac, hein, je crois que je t'ai pris en faute là, on écrase ce Villamégo. » Mais oui, avec plaisir, je vais l'écraser ce Villamégo. Mais je vais pas l'écraser dans le cendrier, je vais l'écraser sur ton front, espèce de casse-burne. Oui, parfaitement, sur ton front. Sur le front ou même dans l'œil. Hein. Pourquoi tant de haine? Parce que c'est le mois de novembre, mon pote, et en novembre, on pète les plombs. Moi, ça fait 18 jours qu'en plus d'un rhume, comme un con, je participe au No Nut Challenge, ce qui commence à me faire boiter. Alors, quand ce matin, après avoir enjambé des cadavres de vieux à moitié bouffés par des chiens, après m'être planté la gueule sur des feuilles mortes et mouillées, eh ben, quand je me prends une réflexion à la con sur la consommation de tabac, eh ben, je deviens dingue et j'écrase ma clope dans un œil. Et c'est le tien. Sinon, à part ça, je vais bien.
Merci, la bande originale. Avec Nagui.
Qu'est-ce que tu retiendras de cette rencontre, première rencontre dans la bande originale
avec
Cyril Lignac?
J'adore les livres de cuisine parce que je suis complètement inapte. Donc ça me fait quand même plaisir de voir des gens qui savent faire plein de choses, qui ont plein d'idées. Je suis très admirative des cuisiniers, des pâtissiers et de tous ceux qui savent donner un peu de bonheur aux gens avec des aliments et un peu de temps.
Fanny Ruet.
Mais moi, ça m'a permis de me rappeler l'existence du panais.
Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Tanguy Passureau.
Moi, j'ai hâte de le voir se faire engueuler par des napolitaines un peu frustres. Ça va faire plaisir. Voilà.
Tom Villa.
Ce qui est chouette, c'est grâce à lui, il y a 15 ans, avant la cuisine et les cuisiniers, c'était un peu des vieux, c'était un peu le truc à papa.
Ringard. Ouais.
Et grâce à Oui Chef et tout ce qu'il a fait après, ça a été l'un des pionniers. Donc, ça a ouvert la porte à plein de gens, donc je trouve ça chouette.
Daniel.
Moi, c'est la première fois que Cyril Lignac venait dans cette émission. Je m'attendais au pire. Finalement, je le trouve hyper sympathique et c'est avec plaisir que j'accepte votre invitation dans un de vos restaurants. Merci Cyril.
Il y a également la collection Noël qui va débarquer à la pâtisserie. Ça a déjà commencé Noël en pâtisserie ou pas?
Oui, ça a déjà commencé. Déjà non, mais je trouve ça...
La bûche et tout.
Même moi, je trouve ça incroyable.
C'est
parce
un peu
que...
tôt, oui.
Ouais, mais c'est vraiment comme ça. Et on passe mon anniversaire. Et parce que je suis né en novembre, hein, donc c'est un mois formidable.
Il y a des gens bien nés en novembre.
Et après, c'est Noël qui commence. Et du coup, ça nous amène vite vers Noël. Ouais.
Les saisons, toutes ces saisons visitées, revisitées, détaillées, écrites d'une manière jouissive par Cyril Lignac, parce que c'est que du plaisir autour de ces recettes. Ça donne envie, alors même si on n'est pas doué, je suis d'accord Leïla, ça donne quand même envie d'essayer.
Oui, bien sûr,
et de respecter ces saisons, ce qui est quand même le mot d'ordre, de faire du bien à notre agriculture française et à nos éleveurs, et de respecter les saisons. Merci Cyril Lignac.
Merci, j'étais ravi.
Ravi également. Demain, c'est Julien Clerc qui sera notre invité, et pour parler avec lui et surtout pour l'entendre chanter. Bonne matinée, bonne fin de journée avec Philippe Bertrand pour les Carines Campagne.
Merci Nagui et à demain.